Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de votre valeureux pédalo. Votre embarcation estivale vous emmène sur les flots de l'actu locale. Au programme ce soir, on revient sur le 8e numéro de La Topette qui vient juste de sortir. La Topette, c'est le journal d'investigation locale de l'Anjou. En deuxième partie d'émission, on aura le droit à la chronique du mercredi d'Infoscope. Et ce soir, on accueille un Ben bien anxieux qui va venir passer un petit coup de gueule. Ajustez votre gilet de sauvetage parce que pour faire avancer notre pédalo ce soir, on va avoir besoin d'huile de coude et surtout pas ni de diesel ni de lithium. C'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Julien.
Bonjour Hugo.
Salut Julien. Salut Julien. Tu es un des deux journalistes fondateurs, en tout cas titularisés du journal d'investigation locale La Topette. Et votre 8e numéro est sorti il y a un peu plus d'une semaine. À la une, je cite « Vie à la campagne et mirage électrique, sommes-nous tous prisonniers de la bagnole ?» Alors comme une illustration à votre dossier, Maxence, tu as bûché toute la semaine sur la trottinette électrique. Salut Maxence.
Bonjour Hugo.
Tu es allé à la rencontre des Angevins pour voir ce qu'ils pensaient de ce nouveau moyen de transport.
À Angers, les trottinettes électriques sont-elles un avantage ou un inconvénient?
Maintenant, on peut se déplacer plus rapidement. Chacun a accès à une trottinette et pouvoir se déplacer tant qu'il veut. Le petit désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de casse et du coup, ça endommage la ville et ça donne une mauvaise image.
C'est bien, c'est bénéfique pour l'écologie, pour l'environnement, pour la pollution à Angers. Moi, je m'en sers assez régulièrement. Ça me permet de ne pas consommer d'essence avec ma voiture et ça me permet aussi de pouvoir participer à la baisse de la pollution à Angers.
Ça permet de diminuer le nombre de voitures dans Angers et ça permet notamment aux jeunes qui n'ont pas forcément le permis ou consommer de l'alcool un moyen de transport sûr à travers Angers.
Ils sont pas bénéfiques les trottinettes parce qu'on a le bus, on a le tramway, donc on peut se balader assez facilement en ville à pied aussi. Donc avec les bus qui nous emmènent partout dans le centre-ville, on a plusieurs lignes. Le tramway, trois lignes vont être faites, il y en a déjà une, donc je pense que ça sert à rien des trottinettes. Et puis en plus, des fois c'est chiant les trottinettes parce qu'elles nous foncent dedans.
Le problème au niveau des trottinettes, c'est que tout d'abord, ça a été créé pour avoir un atout concernant l'essence et les voitures. On arrive à un moment où les gens utilisent ces trottinettes au niveau de la sécurité de la ville et que ce soit au niveau des routes, des choses comme ça, il y a beaucoup plus d'accidents et les gens sont beaucoup moins vigilants et on en retrouve aussi dans les fleuves.
On ne respecte pas les règles de sécurité donc parfois c'est un petit peu compliqué, donc c'est pas mal qu'il y ait des trottinettes mais il faudrait avoir plus de règles pour que tout le monde cohabite.
Et donc vu les réponses diverses et variées que tu as pu recevoir, tu t'es ensuite penché, Maxence, plus spécifiquement sur l'impact écologique des trottinettes électriques et tu t'es rendu compte, on pouvait s'en douter un petit peu, que c'est pas si écolo que ça finalement.
Oui, tout à fait, Hugo. Les trottinettes électriques ont un impact écologique qui n'est pas forcément comme nous le pensons. Ce moyen de transport amusant, pratique pour se faufiler et rapide a été créé pour suppléer d'autres moyens de transport tels que le bus ou encore nos voitures. Mais un problème se pose. Les trottinettes provoquent beaucoup de gaz à effet de serre. Ce phénomène ne se produit pas quand le véhicule est utilisé, mais plus quand elle se recharge. En effet, 43% des émissions de gaz à effet de serre émises par la trottinette électrique pendant sa durée de vie sont liées à la période de rechargement, tandis que le bilan carbone des trottinettes émettrait environ 200 grammes de CO2 par kilomètre et par passager sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est à peu près autant qu'une voiture thermique et 3,5 fois plus qu'une voiture électrique, d'après Clément Fournier, rédacteur en chef de YourMeter. D'après certains scientifiques, une trottinette électrique en libre service a une durée de vie d'un an et pour réduire l'impact environnemental qu'elle provoque, il faudrait l'allonger à 2 ans. Sauf que d'après les dernières études, la durée de vie de ce moyen de transport serait d'un mois, car cassée, mal entretenue ou encore jetée dans des rivières. Car oui, ces trottinettes en libre service polluent certains fonds de nos rivières. Et ce n'est pas tout, la trottinette électrique a une autre forme de polluant, parce que niveau production, elle n'est pas fameuse non plus. La fabrication des composants tels que la batterie au lithium demande beaucoup d'énergie. Le lithium, qu'on retrouve pour la plupart dans la quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud, est un problème pour la planète. Ce composant provoque la pollution des sols et pillage des réserves d'eau. Mais ce n'est pas tout, car ces batteries à base de lithium ne sont pas recyclables. Ces trottinettes sont aussi majoritairement fabriquées en Chine, mais si on en retrouve quelques exemplaires, made in France. Elles sont donc transportées à travers le monde par bateau, qui est un moyen de transport hyper polluant pour les fonds marins et les océans. Problématique quand on sait qu'elles sont produites massivement et qu'elles n'ont pas une grande durée de vie. Aujourd'hui, ce moyen de transport est classé 4e au niveau des véhicules polluants derrière la voiture, les deux roues et le bus, ce qui n'est pas un bon moyen de locomotion qui est censé contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Cependant, il est toujours mieux de prendre une trottinette électrique lors de petits trajets que sa voiture. Car oui, d'après une étude, 42% des personnes prennent leur voiture alors qu'ils habitent à 1 km de leur lieu de travail. L'utilisation de la trottinette est donc privilégiée dans ce cas afin de réduire les gaz à effet de serre.
Merci beaucoup Maxence. Julien, donc de la Topette, votre dossier sur la mobilité s'appuie sur plusieurs constats, mais le premier, et je cite votre article, c'est cette double injonction que pointe aussi du doigt le papier de Maxence, c'est « il ne faut absolument pas polluer, mais il faut pour autant absolument être mobile ». Alors comment on fait, parce que c'est complètement contradictoire, hein.
Bah, tout à fait, c'est complètement contradictoire, et ça faisait longtemps pour tout dire qu'on voulait faire ce sujet sur la question de la mobilité, de se déplacer, notamment quand on vit à la campagne, parce que c'est quelque chose qui avait beaucoup animé le débat public ces dernières années, notamment la crise des gilets jaunes était partie d'un problème de mobilité, l'impossibilité pour tout un tas de personnes qui habitaient à la campagne ou en zone périurbaine de se rendre au travail. Et là, il est complètement d'actualité avec la hausse des prix du carburant qui n'arrête pas de monter. J'ai encore fait mon plein il y a quelques jours, il est à plus de 2 euros, donc c'est...
Le litre est à plus de 2 euros, pas le plein, malheureusement.
Le litre d'essence est à plus de 2 euros, donc... Effectivement, et surtout ce qu'on voulait montrer, c'est que quand on habite à la campagne, même sur un département comme le Maine-et-Loire, qui est quand même assez rural, pas avoir de voiture, c'est avant tout un facteur d'exclusion. Donc dans ce papier, on allait à la rencontre notamment des gens qui vivaient à la campagne, qui n'avaient pas de moyens de se déplacer. Et voilà, surtout quand même ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on pointe beaucoup du doigt les individus, leur comportement individuel, en les culpabilisant d'utiliser leur voiture, mais sans jamais poser la question de la politique qu'on veut, de l'aménagement du territoire.
Et puis des solutions.
Et des solutions.
Et des solutions. On va revenir sur les solutions juste après. En tout cas, vous, pour l'illustration de ce sujet, vous avez testé, vous, de vous rendre à certains de vos reportages uniquement en vélo, ou en transport en commun, ou à pied. En gros, ça quintuple, ou ça double, ou ça triple, enfin, le temps passé à aller d'un point A à un point B est exponentiel. Par exemple, je crois 7 heures pour rallier, je sais plus, 7 heures de transport d'attente pour aller jusqu'à Saumur depuis Angers.
Pas pour aller jusqu'à Saumur,
pour aller jusqu'à... Dans la forêt de Chandelet.
Dans la forêt de Chandelet, ouais, qui est en périphérie de Beaugé, en fait. Alors, c'est pas moi qui ai fait, pour tout dire, cette enquête, c'est ma collègue Maria Monod, et qui s'est amusée, justement, pour toute une série de reportages à ne pas utiliser sa voiture. Et effectivement, alors, il y a des fois où elle partait avec son vélo, dans le train. Ensuite, elle devait pédaler pendant une heure et demie pour arriver à certains endroits. Et ce qu'on a pu constater, en fait, au cours de notre enquête, c'est que l'organisation des transports en commun est très réduite en Maine-et-Loire, et un peu à la manière de comment... et organiser le réseau de la SNCF où tout est concentré vers Paris et de Paris pour aller vers la province. Là, c'est un peu la même chose dans le Maine-et-Loire où beaucoup de choses sont concentrées sur Angers et alors qu'il y a plein de bassins de vie qui ne sont pas reliés entre eux. Et c'est vraiment très compliqué pour les gens qui habitent dans ces territoires parce que souvent, justement, la petite ville ou la sous-préfecture vers laquelle ils sont tournés, ils ne sont pas justement connectés par un réseau de transport en commun. Et du coup, c'est très compliqué pour eux de s'y rendre. S'ils ne veulent pas utiliser leur voiture ou tout simplement s'ils n'ont pas de véhicule.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça pointe aussi du doigt le fait que, au-delà de vouloir ou non utiliser la voiture, il y a aussi plein de gens qui n'ont pas de voiture.
Bien sûr. Et aujourd'hui, de toute façon, ça paraît comme un horizon indépassable, la voiture. Et tous ceux qui ne l'ont pas, justement, c'est souvent de la débrouille. On peut espérer qu'il y ait des réseaux de solidarité qui se créent justement entre les personnes, notamment pour aider les personnes âgées. Il y a des communes qui font des efforts sur ce point-là. Il y a plein de petites initiatives. mais elle reste malheureusement encore trop peu utilisée ou mal adaptée.
Et dans ces zones périurbaines ou rurales, trouver un travail quand on n'est pas, quand on n'a pas de voiture, c'est terrible. Moi, on a chacun nos expériences à ce sujet, mais trouver du boulot à l'usine, trouver du boulot quand on est peu qualifié, trouver du boulot pour faire du maraîchage quand on n'est pas motorisé, quand on n'a pas de moyens de locomotion, c'est hyper difficile.
Et on a étudié certaines communes, je pense à Haut-d'Anjou, Val d'Air-Trouxens, où il y a plus de 40% des habitants quand même qui habitent à 30 minutes de leur lieu de vie, de leur lieu de travail, pardon. Donc c'est quand même assez conséquent. Les Pays de la Loire, en général, sont une région où les gens prennent beaucoup leur bagnole pour aller bosser. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que sur l'aménagement des transports en commun, par exemple, les zones d'activité, les zones industrielles, donc là où sont concentrées une grosse quantité d'emplois, sont extrêmement mal desservies. Donc il y a vraiment un problème au niveau politique pour réfléchir à cette question. Et ce que nous ont témoigné beaucoup d'élus de collectivités locales, c'est qu'il y a vraiment un sous-investissement sur ces questions-là, et eux ne disposent pas de la manne suffisante, l'État ne donne pas assez d'argent justement pour trouver des solutions pour répondre à ces problématiques.
Alors qu'au-delà des problématiques d'emploi, etc., il y a aussi une problématique de désaffiliation sociale. C'est des territoires qui aujourd'hui se retrouvent complètement enclavés parce qu'il n'y a pas de transport.
Et tout à fait, avec la question justement des services publics, si on continue à enlever des services publics justement dans les zones rurales, dans les sous-préfectures. Je peux penser à Segré, où notamment, ça a beaucoup fait parler, le centre des impôts a été transféré. Plus on va éloigner ces services-là des citoyens, plus ils vont être obligés justement de prendre cette voiture. Et ensuite, c'est aux mêmes personnes auxquelles on va reprocher d'utiliser trop leur bagnole.
C'est ça. Et puis en plus, on va aller culpabiliser l'individu sur ses modes de vie plutôt que d'offrir une solution alternative. Il y a quelques solutions alternatives hein, quand même qui sont racontées ici. Vous le disiez tout à l'heure et vous le disiez dans votre article, ces solutions de covoiturage, de s'organiser pour faire de l'autostop, des réseaux solidaires aussi qui vont conduire des personnes âgées d'un point A à un point B pour leur rendez-vous médical. Mais c'est des solutions quand même vraiment à la marge.
C'est quand même à saluer parce qu'il y a un effort quand même des collectivités territoriales pour faire des choses, mais comme le dit, je pense, comme il est cité dans l'article, le président de la communauté de communes de Segré, ce grand Anjou bleu, c'est des solutions palliatives en fait. Ça reste à la marge, effectivement, c'est pas assez connu, pas assez utilisé, pas assez motivant sans doute, et ça c'est vraiment un problème d'investissement au final, c'est un problème d'argent avant tout. Pour c'est de volonté politique. Bon.
Bien sûr, et pour illustrer aussi que de se déplacer autrement était possible, alors là, on change un peu de sujet, vous avez été faire, vous, un reportage à vélo sur les routes nord du Saumurois, pile à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. On sort de la lecture de cette double page, en tout cas, moi je suis sorti de la lecture de cette double page assez ému. Les témoignages sont humains et on sent que vous avez fait des vraies rencontres pendant ces 3 jours à vélo. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce reportage? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en fait concrètement pendant ces 3 jours?
Déjà l'idée c'était un peu de se faire plaisir aussi parce qu'on voit énormément la topette, là c'était concilier l'utile à l'agréable, donc prendre notre vélo, aller se balader dans un coin qui n'est pas du tout touristique parce que justement c'est ce qui nous intéressait, c'est un peu d'explorer ces territoires méconnus du Maine-et-Loire et surtout d'aller à la rencontre des gens parce que le vélo a ce petit côté magique, c'est... Justement, ça paraît très accessible aux gens, c'est beaucoup plus facile d'engager la conversation avec les habitants quand on est sur son vélo que justement quand on est
l'imaginaire du tour
de sa bagnole, l'imaginaire du Tour de France, tout à fait. Et l'idée, c'était juste, on ne savait pas vers quoi on partait, avec quoi on allait revenir, peut-être ça allait rien donner, mais c'était surtout de rencontrer les gens, ce qui est un peu l'ADN de la topette, c'est quand même de donner la parole aux citoyens lambda et d'aller à la rencontre. Alors il s'est trouvé, c'était un hasard. Ça faisait longtemps qu'on voulait aller dans le Beaujois. On a un peu, du coup, essayé de le caler pendant le second tour aussi de la présidentielle, parce qu'il se trouve que c'est le seul endroit du département qui a placé Marine Le Pen en tête du premier tour, et même du deuxième tour.
56% en tête, 56% des suffrages recueillis au premier tour, hein, c'est ça.
Selon les communes, oui, effectivement. Oui. Mais notamment une des communes où on s'est rendu, on a assisté au dépouillement, c'est une des particularités locales. Et on voulait comprendre, parce que le vote de Front National n'a jamais vraiment percé dans l'ouest de la France, et d'autant plus en Anjou. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez récent.
Et ce qu'on entend, c'est que...
législative récemment.
Et ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment des questions de pouvoir d'achat et pas du tout de racisme ou des choses qu'on pourrait aussi qui pourraient être aussi sous-entendues par le vote Rassemblement National.
Bien sûr, ouais, c'est un peu les mêmes problématiques qu'on peut trouver dans le nord de la France qui sont liées à la désindustrialisation du pays qui a poussé nombre d'électeurs à trouver un vote colère en fait dans le Front National avec ce bulletin-là. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça parce que c'est un territoire où il y a quand même peu d'emplois qui est abandonné justement par les services publics, on en parlait avant. Donc non, il n'y a pas du tout de problème d'insécurité, ça. Les gens qu'on a pu rencontrer nous l'ont bien fait comprendre, mais effectivement, il y a une révolte contre...
D'ailleurs,
ils se sentent abandonnés pour beaucoup.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de xénophobie. D'ailleurs, ils accueillent des travailleurs étrangers, je crois, des Hongrois ou des Bulgares.
Alors, c'est vraiment une autre particularité, effectivement, qu'on a pu se rendre compte. Ça, c'était notre premier jour. C'est que c'est vraiment une terre, notamment, de maraîchage. Et ils ont besoin
de cette main-d'œuvre.
Ils ont besoin de cette main-d'œuvre parce que c'est des travaux très ingrats, très précaires. Et il y a beaucoup, effectivement, de gens de l'Europe de l'Est qui viennent pour la saison travailler dans ces terres de maraîchage dans le nord-est du département. Et on a vécu une scène assez saisissante où on arrivait à un camping et là il y avait un car rempli de Bulgares qui arrivait direct de Bulgarie avec des femmes d'un certain âge qui avaient encore un fichu sur la tête comme on pouvait imaginer les paysannes en France dans les années 50 et qui venaient passer la saison pour cueillir en l'occurrence là c'était des framboises et des myrtilles
voilà. Qu'on trouve sur les étals de nos supermarchés.
Tout à fait.
Tout autre registre. On change complètement de sujet et on suit un peu hein, votre journal La Topette. Autre registre qui concerne, lui, le monde étudiant. Le titre, le gros titre, qui fait un peu parler quand même dans le monde étudiant et universitaire, je cite « Gros malaise à la Cato ». On y apprend notamment que des consignes seraient données aux profs, et ça va intéresser tous les étudiantes et étudiants qui nous écoutent, de surnoter les copies et qu'un 10 à l'UCO ne vaudrait jamais un 10 dans le public.
Alors, je n'irai pas jusque-là. Il n'y a pas un système, des directives pour un système de surnotation, mais il y a quelque chose quand même qui est admis, en tout cas...
Pas de directives, mais en tout cas des tendances générales.
Quand ont témoigné certains professeurs, on en a rencontré plus d'une trentaine, plus d'une trentaine de personnes qui ont gravité autour de l'UCO. C'est un dossier qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, surtout, qu'il y avait un énorme malaise, une forme d'omerta. Les interviews que j'ai pu mener ont parfois duré 4-5 heures, tellement les gens qui travaillaient
les gens notamment parler,
hein. à l'UCO avaient besoin de se livrer. Il y avait une espèce de chape de plomb. Et il y a beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a en tout cas...
Vous citez un prof de l'UCO qui dit, et c'est d'ailleurs la chute de votre article, au final, on ne se demande si les élèves n'achètent pas leur diplôme.
C'est quelque chose quand même qui est propre à l'enseignement privé. Il y a eu plusieurs études de chercheurs sur cette question-là où effectivement les écoles d'enseignement privé ont besoin des étudiants et notamment de leurs frais d'inscription puisque c'est grâce à ça qu'ils vivent. Donc si on réfléchit à une logique purement comptable, on n'a pas intérêt à saquer les étudiants parce qu'ensuite ils pourraient ne pas se réinscrire ou dire à leurs amis, à leurs frères et sœurs
de ne pas venir ici parce qu'ils n'ont
aucune chance. Donc il y a quand même un truc qui est diffus et d'ailleurs il y a des taux assez exceptionnels à la Cato. Moi j'ai un peu regardé toutes les L1, LE, L2, L3. On a des taux hallucinants de réussite. Pour certains,
ça
va jusqu'à 100%, alors que dans le public, on est plutôt à 40%. Donc il y a quand même. Alors, est-ce que l'UCO défend, et nous l'explique dans l'article, est-ce qui est vrai, c'est qu'on a des beaucoup plus petites promos que dans l'université publique. Donc il y a un accompagnement, c'est certain, qui est fait. Il y a des conditions sûrement d'accueil, de suivi qui sont beaucoup plus propices à s'impliquer dans ces études. Un autre biais, c'est quand même. L'inscription à l'Université catholique de l'Ouest est très très chère.
En moyenne, 4200 euros pour une inscription en licence.
Et ça va jusqu'à 7000 euros par an. Effectivement, quand on débourse une telle somme, quand ses parents se saignent pour payer, on va peut-être être enclin à finir l'année, en tout cas, pas abandonner. Mais en tout cas, oui, il y a quand même, et c'est ce que nous ont expliqué plusieurs professeurs, c'est qu'il y a une tendance à la surnotation.
L'illustration de cet article faite par Marie Leroy, illustratrice angevine. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup avec des illustrateurs et illustratrices locaux. Donc, l'illustration pour cet article montre le bâtiment principal de la Cato comme rongé de l'intérieur par un ver de terre. Racontez-nous un peu ce dessin. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Alors,
qu'est-ce que Marie a voulu dire par là?
Effectivement, comme tu disais, on bosse uniquement avec des illustrateurs locaux. Et pour le coup, notre parti pris, c'est de leur donner
carte
blanche. En gros, on leur envoie l'article, ou s'il n'est pas écrit, un pitch très, très détaillé. Et après, c'est à eux de l'interpréter. Et justement, c'est ça qu'on trouve intéressant. On ne va pas leur ordonner de faire telle ou telle chose en leur donnant des directives. On aime bien qu'il y ait cette petite touche personnelle, ce point de vue artistique que nous, on n'a pas, parce qu'on est des journalistes, donc on n'est pas forcément très, très créatif. Je pense que tu l'as bien décrit, et chacun en fera son interprétation, et c'est ça qui est intéressant justement, donc je n'oserais pas parler à la place de Marie Leroy.
En tout cas, un point sur lequel moi j'aurais voulu revenir, c'est que, la lecture que j'en ai faite, c'est que l'Université catholique de l'Ouest était rongée de l'intérieur, notamment par la communauté de l'Emmanuel, et vous en parlez assez longuement dans cet article, communauté de l'Emmanuel qui s'inspire des évangélistes aux États-Unis. Les cours d'éducation sexuelle qui sont donnés à la Cato, puisqu'il y en a, sont donnés par la femme du doyen qui est elle-même
directeur.
Membre... du recteur, pardon, du recteur, qui est elle-même membre de la communauté de l'Emmanuel. Des cours dans lesquels on incite les étudiants à ne pas se masturber, à indiquer que vraiment faire l'amour avant le mariage, c'est mal.
Alors je pourrais pas dire exactement ce qui est donné dans ces cours, parce que moi je n'y ai pas assisté personnellement. En revanche, c'est cette dame effectivement qui donne ce qu'on appelle des cours transversaux, donc qui sont des cours que les étudiants doivent choisir en dehors de leur cursus, sont donnés effectivement par une dame qui est l'épouse du recteur et qui est une référente conjugale, notamment au sein de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est vrai que la communauté de l'Emmanuel est un mouvement catholique assez traditionnaliste, où on a une vision quand même pour le moins étriquée de la sexualité, sur les questions d'avortement, sur l'homosexualité, etc. En tout cas, un point de vue très très conservateur. Et ben, on peut se poser effectivement la question, est-ce que c'est ça a sa place dans un institut qui est défini comme une université, de donner des cours avec un certain biais. Alors après, je ne peux pas vous dire exactement ce qui est dit dans ces cours-là.
En tout cas, vous écrivez...
J'ai peu de doute sur le fait que, en tout cas, les préceptes, les grandes idées de la communauté de l'Emmanuel, qui, je le répète, est assez traditionnaliste, se ressentent en tout cas dans l'enseignement qui est donné.
En tout cas, ça fait jaser au sein de l'Université d'Angers, parce qu'il faut savoir quand même que c'est l'Université d'Angers qui valide les crédits ECTS, donc les crédits auxquels tous les étudiants, que les étudiants reçoivent après la validation des acquis, c'est les crédits européens, hein. C'est l'Université d'Angers qui les valide, ces crédits. Et l'Université d'Angers valide les crédits également de ce genre de cours.
Alors, pas tout. Tellement, parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cato n'a pas le droit, elle, de délivrer des diplômes d'État. Elle est obligée de passer des conventionnements avec tout un tas d'universités publiques. Et il se trouve que, de par la proximité géographique, beaucoup des diplômes sont parrainés, entre guillemets, par l'Université d'Angers. Donc, c'est pour le coup d'une grande majorité des licences, effectivement. Et du coup, quand un étudiant de la Cato a sa licence, en fait, il n'a pas un diplôme de la Cato, il a un diplôme de l'Université d'Angers. Et donc, effectivement, ça implique que l'Université d'Angers reconnaisse les cours qui sont donnés. Elle y trouve aussi un intérêt financier, parce que en tout, la Cato débourse plus d'1 million d'euros. En partenariat auprès d'autres universités publiques extérieures. Donc il y a vraiment une question qui se pose, effectivement. Après, nous, de tout ce qu'on a pu interroger, on a interviewé plusieurs universités publiques, elles n'étaient pas au courant de l'existence de ces cours, notamment qui pouvaient poser problème sur les questions de sexualité.
Est-ce que l'Université d'Angers réfléchit à remettre carrément en question les accords qui ont été passés avec l'UCO au vu de ces cours-là?
J'ai pas d'informations sur le sujet, c'est moi qui les ai informés quand je les ai interviewés.
Ah oui,
ils n'étaient pas au courant, donc depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il se trouve qu'on arrive en fin de conventionnement. Une nouvelle convention devrait arriver à partir de la rentrée 2022-2023. Voilà, j'en sais pas plus.
Comme on change de recteur, peut-être que c'est des cours aussi qui vont évoluer. On avance toujours, on passe page 15 de la topette, avec un tout petit encart en bas à, qu'est-ce que c'est, ma droite ici, en bas à droite de la page, le titre de cet encart, quand la région investit dans la start-up de son vice-président. Et alors ça pointe du doigt les investissements notamment de la région, mais aussi de la Chambre de commerce et de l'industrie, dans la start-up de l'ancien directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie, Éric Grelier. Évidemment, conflit d'intérêts énorme, ça fait beaucoup parler.
Ça fait beaucoup parler, ouais. On a révélé, du coup, dans ce numéro, que la start-up de Éric Grelier, qui s'appelle, sa start-up s'appelle Byflox, qui est une forme de plateforme de e-commerce pour fleuristes, en fait, avait réalisé une levée de fonds au début du printemps, je crois, début avril.
600 000 euros. Hein.
Et en tout, c'est une levée de fonds de 600 000 euros. Voilà, alors, en soi, pas de problème. Ce qui pose question, c'est que parmi les financeurs, on a notamment Pays de Loire Développement et Pays de Loire Participation, qui seront deux fonds d'investissement de la région, qui ont chacun déboursé 150 000 euros. Et sachant que Éric Grelier n'est autre que le vice-président de la région. Donc oui, ça pose une vraie question de potentiel conflit d'intérêts, d'autant plus qu'également la CCI, via un fonds d'investissement aussi, en tout cas une société de capital risque derrière laquelle elle est, qui s'appelle Enjeu Amorçage, qui a elle aussi déboursé 100 000 euros. Mais il se trouve que Éric Grelier n'était autre que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc effectivement, ça pose énormément de questions. Il se trouve que l'opposition régionale, notamment les écologistes à la région Pays de la Loire, se sont saisis de cette information, ont questionné la présidente de région, Christelle Morancet. Voilà, affaire à suivre, mais c'est aussi un des buts de la topette, de révéler des choses, de faire sortir des infos, de faire de l'investigation, et on est heureux et content de pouvoir faire notre boulot.
Le temps file, on est hyper en retard, mais quand même, une dernière petite question. On change de sujet, on continue, hein, on avance dans le journal, page 15 cette fois. Vous êtes allé discuter avec les intérimaires chargés de la mise en pli des professions de foi. Et autant j'ai été ému par votre voyage en vélo, autant là, j'ai eu froid dans le dos. C'est édifiant, des conditions de travail terribles, des licenciements pour 30 secondes de retard, ou parce que, et je cite une de vos sources, hein, leur tête ne revenait pas à la direction. Enfin, c'est terrible. Je laisserai le soin aux auditeurs d'aller acheter le journal pour en apprendre un peu plus sur les pratiques de Via Poste, une filiale de La Poste. Mais je voulais revenir avec vous sur un tout petit bout de phrase que vous avez dans cet article. On a voulu en savoir plus et ça tombe bien, quelques jours plus tard, un lecteur nous passait un coup de fil. On a presque l'impression de lire un extrait de Cache Investigation qui retrouve quasiment par hasard dans leur boîte aux lettres un document hyper confidentiel qui aurait jamais dû leur tomber dans les mains. Les gens, en fait, à la Topette, commencent à vous passer des coups de fil pour vous refiler des infos, des tuyaux, des choses qui ne vont pas ou des choses qui vont bien. Vous êtes un peu le relais des lanceurs d'alerte de l'Anjou maintenant.
Ouais, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, on a, c'est vrai, beaucoup plus en plus de personnes qui nous contactent directement pour nous apporter des infos, pour témoigner de situations scandaleuses. Et c'est un peu ça aussi quand on fait de l'investigation. C'est nous, on se nourrit justement des remords ou de l'indignation que peuvent recevoir les gens dans leur travail, dans leur situation, dans leur commune. Et c'est très important justement d'établir ce lien de confiance avec les lecteurs qui peuvent nous faire remonter des infos et qu'on puisse produire des sujets auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Et en tout cas, on n'aurait pas eu les éléments pour faire une vraie enquête.
Pour conclure, quand même un petit bravo, même un grand bravo, puisque ça fait maintenant 2 mois, je crois à peu près, que vous avez réussi, simplement grâce à l'argent de vos lecteurs, à créer 2 emplois, 2 CDI à la Topette. Donc félicitations.
Merci beaucoup.
Bah, c'est cool.
Oui, on est très content, c'était pas le but au départ, on faisait avant tout ça pour s'amuser. Et, je trouve que la Topette a rapidement fait son trou, a trouvé un lectorat fidèle et assidu. Et ouais, on est trop content et on compte bien continuer et s'implanter et durablement aussi, dans le paysage médiatique.
Nous aussi, on compte bien que vous continuiez. On souhaite encore beaucoup de succès et des ventes nombreuses. Hein. Vous estimez combien de... Vous avez tiré à combien d'exemplaires là?
On tire en gros à 4006 et on vend à peu près 3000 dans les kiosques et on a environ 700 abonnés.
Félicitations. Merci. Pour un an et demi de vie, c'est formidable. Tout de suite, petite pause musicale sur Radio Campus Angers. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à nos questions. On revient juste après pour la chronique d'Infoscope.
Nails. Big quick on the neck. Don't muck me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. I bump a bit. Flash pieces in my nails. Bump a bit. Flash pieces in my nails. Bump a bit. Flash pieces in my nails. Ha. Run, honey, run. I bump a bit. Flash pieces in my nails. Bump a bit. Flash pieces in my nails. Bump a bit. Flash pieces in my nails. Oh, look at what the cat brought in. It ain't smart, baby, just a muscle game. In my sin, running, don't blame the will of loop. In like, oops, I did it again. Now
shove your nails.
All the sad ones on the mat.
Shove your nails.
All the bad ones, all the cats.
Up the bass.
All the hands up, no back up. Why? I bump a bit, flash pieces in my nails. Bump a bit, flash pieces in my nails. Bump a bit, flash pieces in my nails. Ha! Run, bunny, run. I bump a bit, flash pieces in my nails. Bump a bit, flash pieces in my nails. Bump a bit, flash pieces in my nails.
Look what I got in my nails.
There's a game and I ain't fall. I gotta be dealing it like your face is an 8-ball. You gotta be like a man on the death row. You better let go, give me some echo.
These nails are made for your skin.
I got what you need, got what you need.
These nails are made for your skin.
I love what you leave, love.
Shove your nails.
All the sad ones on the mat.
Shove your nails.
All the bad ones, all the cats.
Up the bass.
Flash pieces in my nails. Bump a bit. Flash pieces in my nails. Bump a bit. Flash pieces in my nails. Ha!
Run, bunny, run.
Bump a bit. Flash
pieces in my nails. Flash pieces in my nails. I pop this bit. Flash pieces in my nails. Bump a bit. Just kidding.
Eh oui, à chaque fois on se fait avoir, je recommence à parler avant la fin du morceau. C'était Nails de Noga RS sur Radio Campus Angers. Il est exactement, on a éclaté le conducteur, hein, 18h29. Et à 18h29, c'est un peu tard, mais c'est toujours l'heure de la chronique de Ben d'Infoscope. Salut Ben.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une menace qui plane sur la France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que cette menace?
Alors oui, autant vous dire que ma chronique, ça va pas être la fête du slip, même si la température commence à grimper et je parle pas que de la météo. Politiquement aussi, une grosse canicule nous attend et il faut tout d'abord en déterminer les causes. Le monde politique et médiatique a la tête dans le guidon, aujourd'hui on est dans l'entre-deux-tours des législatives. Mais c'est toujours important de prendre du recul avec la gravité qu'exige la situation. Derrière notre démocratie libérale se trouve en fait un système que tout le monde connaît mais que personne ou presque ose nommer le capitalisme.
Le capitalisme.
Ce mot, vous pourrez l'entendre dans aucune bouche d'éditorialistes de grande chaîne, de politiciens au pouvoir ou de chef d'entreprise. C'est pourtant ce système capitaliste qui produit des crises en permanence entre cycles de surproduction et cycles de destruction de l'appareil productif. Les superstructures politiques libérales sont bien peu de choses comparées au pouvoir infrastructurel du capital. Ce capital qui décide de ce qui est financé, produit, mis sur le marché, vendu, ce qui mérite publicité. En bref, un pouvoir de vie ou de mort sur l'économie réelle. Face à Bernard Arnault, l'homme qui pèse 100 milliards, autant dire que Macron est un poids-plume. D'autant que l'actuel président de la République est carrément aux ordres de cette petite classe sociale qui domine, qui exploite, qui divise. Pour cette poignée de familles qu'on va retrouver tout sourire au top du classement des grandes fortunes du magazine Challenge dans 2 semaines, la Macronie démantèle les services publics pour laisser place au marché privé et ne fait rien contre le gigantesque transfert de la production industrielle depuis la France vers les pays moins développés, autrement dit les pays plus exploités.
On appelle ça le dumping social et tu voulais nous parler d'une menace.
Justement, j'y viens. Poser le contexte, c'était important pour y venir justement. Les pouvoirs publics ont failli à leur prétendue mission de protéger les citoyens. Tout le monde s'en est rendu compte avec la crise du coronavirus. Cette faillite des institutions libérales risque de déboucher sur le pire, et le pire, c'est l'autoritarisme, le nationalisme, la guerre et même le fascisme.
Le fascisme, point Godwin, catching.
Ouais, je connais cette réaction, ce réflexe pavlovien, je le connais par cœur et je m'y attendais. Ok, on n'est pas dans l'Italie ou l'Allemagne des années 30, mais entre nous, la France des années 2020, ça sent pas bon non plus et vaut mieux pas avoir d'œillères. Dimanche dernier, l'extrême droite a réalisé son meilleur score jamais obtenu à des élections législatives. Des éditorialistes parlent au calme de grands remplacements à des heures de grande écoute, pendant que des individus sèment la mort au nom de cette idéologie. Bref, c'est chaud. Il y a une multitude de signaux faibles ou de signaux plus forts qui démontrent qu'on est, avec la faillite de la Ve République, en route pour éprouver le régime politique le plus violent du maintien de la domination capitaliste, en route vers le fascisme.
Mais pourtant, on le voit partout, hein, le V de la victoire, la gauche a fait jeu égal avec la majorité présidentielle au premier tour des législatives.
Oui, tout n'est pas à jeter dans la période. Notre monde est fait de multiples contradictions, il y a des reflux et il y a des progrès. Des candidates et candidats NUPS sont qualifiés au second tour dans plus de 400 circos et l'Assemblée nationale va définitivement avoir une autre gueule que ces 5 dernières années. À condition d'aller voter, si vous avez le droit de vote, franchement, allez-y, servez-vous-en. Mais là aussi, il va falloir, à gauche, assumer un mot, le socialisme. Non pas la gestion socialiste du capitalisme, mais l'achèvement du capitalisme en faveur d'une société pacifiée, d'harmonie, d'émancipation et de justice. En somme, l'inverse du monde aujourd'hui imposé par Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault et compagnie. L'avenir, c'est pas Coca ou Pepsi, McDo ou Becca, demain ce sera socialisme ou barbarie. Pour finir, prenez soin de vous et gardez-vous de vos amis, parce que quand on a des potes comme les miens, je pense à Adam, d'Infoscope, on n'a pas besoin d'ennemis. Adam, tu es dans l'ego trip, mes textes prennent mes collègues au trip, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Ben pour cette chronique, et surtout, n'oubliez pas, on le redit, et on ne le redira jamais assez, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. C'est la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Étienne et Elisa à la technique. Merci à Ben pour sa chronique. Merci à Julien d'être venu répondre à nos questions. Et merci à Maxence pour son travail autour des trottinettes électriques. Nous, on se retrouve demain. Et d'ici là, n'oubliez pas, et vraiment n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.